Régional bruxellois, Madame Françoise Dupuis, Monsieur l'ambassadeur, très très chère oratrice, alors je vais me tourner d'abord vers les jeunes de cet hémicycle pour dire que nous avons en tant que président un marteau. Je serais ravie de l'utiliser aujourd'hui alors qu'on parle de révolution. Non, je rigole, mais c'est pour dire s'il vous plaît, ne touchez pas avec tous ces boutons. C'est assez sensible et voilà, ça ne permettra pas un bon déroulement de cette matinée. Alors, je suis vraiment particulièrement heureuse de vous accueillir ici. Mon nom est Julie de Groot et je suis présidente du Parlement francophone bruxellois. Et je suis vraiment très, très heureuse de vous accueillir à la veille du 8 mars dans ce Parlement autour des femmes, de la Tunisie et de ce qu'on peut dire la révolution. Parce que finalement, ne sommes-nous pas toujours en évolution-révolution? C'est ça la question. Alors, je voulais dire trois petites choses en guise d'introduction. D'abord, pourquoi ici? Pourquoi le Parlement francophone bruxellois? Quand je suis devenue présidente, nous avons lancé avec le service des relations publiques ce qu'on a appelé les jeudis de l'hémicycle, les jeudis du Parlement francophone bruxellois. Et pour faire part, je ne sais pas si ici de ma place on peut parfois avoir quelques états d'âme, mais pour vous faire part de quelques états d'âme d'une démocrate, et je pense que je partage ça avec la présidente Françoise Dupuis, c'est vrai qu'on peut parfois se poser des questions sur nos démocraties occidentales, sur le parlementarisme occidental. On a tous appris Montesquieu, les élus, les représentants du peuple, la première branche du pouvoir législatif, ce qui ne correspond évidemment plus à la réalité. Le pouvoir exécutif a un poids fort par rapport au pouvoir législatif. Les journalistes, comme Baudouin Lowe, ici à côté de moi, les blogueurs, ceux qui sont sur Internet, etc., ont un poids de démocratie tout à fait différent de ceux des représentants des assemblées. Et donc, c'est vrai qu'on a une réflexion sur ce modèle où on dit « on vote et on délègue ». Non, aujourd'hui, ça n'existe pas. On ne dit pas « on vote et on délègue ». On a des autres formes de démocratie à réinventer. Et une de ces choses, c'est justement, on a voulu créer ici, à travers ces jeudis de l'hémicycle, le fait de se dire à quoi sert un Parlement, à quoi sert un hémicycle, si c'est justement d'être un lieu de rencontre avec l'associatif, avec la société civile. Là, on renoue avec la démocratie. Et donc, au moins une fois par mois, si pas deux, le Parlement est envahi par l'associatif. Et je fais le lien avec la Tunisie, parce qu'en allant en Tunisie avec le bureau du Parlement francophone bruxellois, s'il y a bien un modèle de société que nous partageons, et que je dirais la France partage moins avec la Tunisie que nous, c'est cette imbrication du politique, et donc le lieu signifiant de l'hémicycle, du politique avec le monde associatif, avec la société civile, ce que nous appelons la société civile. Et donc, je pense que c'est vraiment particulièrement important que vous preniez la parole ici, dans un hémicycle, dans un lieu de démocratie, où on a des questions toujours sur la démocratie. Et c'est ce qu'on a vécu maintenant en Tunisie, voilà, le Parlement. Est-ce que le Parlement arrive à un moment à accoucher, pour employer ce mot, d'un modèle de société, d'un nouveau modèle de société? Et je pense que c'est vraiment signifiant qu'on se voit là-dessus. La deuxième chose, c'est pourquoi la Tunisie? Nous sommes allés en mission en Tunisie, le bureau du Parlement francophone bruxellois, du 4 au 8 novembre dernier. On est arrivé à Tunis et on a tout de suite retrouvé Simone Suskind. Donc c'est bien de l'avoir ici, parce qu'il n'y a pas de meilleure porte d'entrée. Elle ouvre toutes sortes de portes, d'ailleurs. Elle n'ouvre pas qu'une grande porte qui est déjà ouverte. Elle enfonce un peu, elle donne un coup de pied, on la connaît. Mais donc, il n'y a pas de meilleure porte d'entrée que Simone Suskind. Et effectivement, nous avons trouvé un modèle en révolution. Je mets le R entre parenthèses, évolution, révolution. Et à ce moment-là, c'était intéressant, si je partage ce lien entre Tunisie et Belgique, on a exporté en fait deux grandes réflexions que je voudrais partager avec vous aujourd'hui aussi. La première, c'est on a exporté au fond les discussions autour de notre modèle constitutionnel. Parce que si de nouveau on fait la comparaison avec la France, c'est vrai que modifier la constitution en France n'est pas exactement la même chose que modifier la constitution en Belgique. Nous sommes quand même devenus des experts de la broderie institutionnelle et constitutionnelle. Et c'était donc très intéressant d'avoir ce dialogue-là avec des Tunisiens, puisque on était, quand on y a été en novembre, évidemment, en pleine discussion autour de l'Assemblée constituante et de la Constitution qu'on pouvait faire. Et donc de savoir si la Constitution, et c'est un vrai débat, est un principe immuable, supérieur, mais presque sacré, et on tombe évidemment dans tout ce qui est les références sacrées, ou si c'est un principe supérieur, certes, mais qui lui aussi doit correspondre à l'évolution de la société, ce qui est au fond plus le modèle belge, où on a un principe supérieur, certes, dans un monde qui est complexe, qui est le nôtre institutionnel, mais dans lequel on peut aussi remettre en question certains principes. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de dire que c'est une constitution est quasi sacrée. Donc c'est une vraie réflexion. Et l'autre réflexion, et ce qui a mené à des débats passionnés entre nous, comme on peut s'en douter, et si Françoise Dupuis avait été avec nous, ça aurait duré jusqu'à tard dans la nuit, c'est sur cette idée de laïcité versus neutralité. Ce qui est très intéressant aussi, si je refais un peu la comparaison avec le modèle français, qui a un État laïque, nous sommes un État neutre, qui est une neutralité active. Neutralité active, puisque déjà nous finançons les cultes, etc. etc. Alors, c'est là aussi intéressant de voir qu'on a un modèle par rapport auquel on a beaucoup discuté avec nos interlocuteurs, de dire... Est-ce que dans un monde comme la Tunisie, à la fois très fort empreint de laïcité, de ce principe fondamental, bien entendu, de laïcité, mais où on a des partis islamiques qui gouvernent, est-ce que au fond, cette idée de neutralité active, qui n'est pas une neutralité molle, qui n'est pas une neutralité... fade, qui est notre modèle belge, n'est pas quelque chose d'intéressant. Voilà, ça a mené évidemment des débats très intéressants, aussi bien avec la presse tunisienne qu'entre nous, parce que c'est aussi un modèle en évolution chez nous, c'est aussi en discussion chez nous, ce n'est pas non plus sacré chez nous. Donc voilà, et c'était vraiment très, très intéressant. Mais c'est vrai que quand on était là-bas, c'était un espoir. Et qu'aujourd'hui, l'espoir est devenu expectative, est devenu attente forte. Quand on était là le 4 novembre, personne n'aurait imaginé, évidemment, l'assassinat de Chokri Belaïd. Et on était dans plutôt un espoir vis-à-vis d'un calendrier. Voilà. Quand est-ce que la Constitution va suivre ? Quand est-ce qu'on va déposer le nouveau modèle de la Constitution ? Non, mais il n'y aura pas d'élection avant octobre. Moi, je crois que ce n'est pas octobre, ce sera plutôt novembre. On était dans ce discours-là. Aujourd'hui, c'est évidemment un autre discours. Évidemment, aujourd'hui, l'histoire a continué à s'écrire. Et le point d'interrogation est évidemment d'autant plus fort, et c'est d'autant plus fort de se voir maintenant, alors qu'on a le remaniement gouvernemental et qu'on a ces vrais points d'interrogation. Et c'est pour ça que se voir avec la femme au centre de cette préoccupation, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Je pense que c'est vraiment un modèle qui est important, et de se voir dans un lieu qui est l'hémicycle, qui est un lieu parlementaire, qui est un lieu justement où la démocratie se dessine. Alors, les parlementaires sont présents, donc ça me fait bien plaisir. Françoise Berthiaud, qui est chef de groupe MR au Parlement de la Communauté française, mais qui, elle aussi, plusieurs d'entre vous l'ont rencontré, s'est rendue en Tunisie pour l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Donc voilà, il y a un lien certain dont elle nous parlera. Fatoumata Sidibé, qui est chef de groupe FDF, oui, voilà, il faut lever la main, à qui il ne faut pas expliquer quels sont les mots d'égalité, de combat des femmes et de combat pour la démocratie en général. Et Hamza Fassifiri, qui est député CDH et qui, que je remercie aussi d'ailleurs de venir ici. Et bien entendu, alors je crois que j'ai d'autres collègues du groupe écolo et PS qui vont arriver. Ah voilà, merci. Nadia El Yousfi, qui est vice-présidente du Parti socialiste du Parlement francophone bruxellois. Nadia, merci, une vice-présidente plus qu'active, et bien entendu, notre présidente, Françoise Dupuis. Voilà, donc, c'est pour dire qu'il y a un relais qui est fait. Il y a un relais qui est fait, il y a une écoute qui est faite, et vraiment, merci d'être là. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Simone Suskind. Vous ouvrez cette séance, il ne faut plus vous présenter. Non, il faut peut-être appuyer, voilà.
Ah voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très honorée. Merci beaucoup, Julie, de m'avoir invitée à participer à cette matinée de réflexion dans le cadre de la Journée internationale des femmes sur la situation et ce qui se passe en Tunisie, la situation des femmes et ce qui se passe en Tunisie. J'ai eu la chance d'être impliquée en Tunisie bien avant la Révolution. Juste pour l'anecdote, peut-être, j'ai participé comme observateur à un procès politique en 2000, qui était le procès du dirigeant de la gauche tunisienne et de ses amis, qui avaient passé 2 ou 3 ans en clandestinité à l'intérieur de leur propre pays. Il s'agit de Rama Hamami. Et même si j'avais déjà été en Tunisie dans d'autres cadres, Euromed, femmes, etc., c'est la première fois que j'ai été confrontée avec mes collègues à la brutalité du système, à la brutalité du régime, qui à la fois s'est violemment attaqué à certains de ceux qui étaient en jugement, mais qui s'est aussi violemment attaqué à l'opposition qui manifestait devant le palais de justice. Je ne rentre pas dans les détails. Et on a vu le rôle néfaste de la police politique dans le pays et comment ce procès s'est déroulé, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, le juge est entré et en 5 minutes, il a condamné ces 3 hommes à 4 ans de prison. Et moi, je suis une activiste, donc moi, je suis rentrée à Bruxelles et je me suis dit, c'est inacceptable et il faut sensibiliser sur à la fois les Européens et les Belges et la société civile belge sur cette situation, alors qu'on présentait la Tunisie comme le pays qui nous protège contre le terrorisme islamique, le pays qu'il y a de très belles plages où on peut passer des vacances magnifiques, sans voir du tout qu'il y a des gens qui luttent pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour la justice. Et donc, pendant toutes ces années, avec d'autres amis, et l'opposition tunisienne à l'intérieur de la Tunisie et l'opposition tunisienne à l'extérieur, nous avons essayé de faire ce travail de sensibilisation et d'information. Et nous avons tous été pris de court, tout le monde, les Tunisiens les premiers et nous aussi à l'extérieur, par cette révolution qui a déferlé d'abord en Tunisie et puis qui s'est propagée en l'espace de quelques semaines en Égypte, au Yémen, en Libye. Et donc un mouvement massif dans le monde arabe. Alors c'est clair que pour nous tous, pour tout le monde, et je pense qu'il faut être très conscient de cela, qu'une révolution, comme Julie, tu l'as dit, ce n'est pas un chemin parsemé de pétales de roses et qu'en l'espace de 2-3 ans, on aura la démocratie, comme on la voit nous ici d'ailleurs, et pas nécessairement comme les Arabes la voient eux dans leur propre pays, et puis que ça ne va pas se passer du jour au lendemain et qu'il y aura des tensions, qu'il y aura des difficultés. Je pense que ce n'est pas un hasard si les islamistes sont arrivés au pouvoir en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, pour toutes sortes de raisons. Il faut se souvenir que M. Djebali et d'autres ministres du gouvernement tunisien, Denarda, ont passé 10, 15, 17 ans en prison et qu'ils représentaient en quelque sorte le symbole de l'opposition au régime autocratique. Eux aussi ont été très surpris par cette révolution. Ce n'est pas eux qui ont fait cette révolution, c'est le peuple, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est ceux qui... Et on l'a senti dans tous les pays de la région. Ce sont des citoyens et des citoyennes qui n'en voulaient plus, qui ont cessé d'avoir peur, qui réclamaient leur dignité, qui réclamaient la liberté et qui réclamaient simplement ce qui est basique pour des citoyens du monde. Et les islamistes ont pris en quelque sorte le train en marche. Mais comme ils représentaient, comme ils étaient organisés, moi j'étais en Tunisie, et d'ailleurs j'ai vu Hélé quelques semaines quand la campagne électorale a débuté en Tunisie, on avait apposé sur les murs des affichettes qui représentaient les partis politiques. Et il y avait 100 affiches pour représenter 100 partis différents. Et alors que les islamistes, eux, sont allés comme un seul homme, avec un seul message, et avec tout à fait unis. Alors que toute l'opposition laïque, tous ceux qui étaient laïcs, ou laïcs, plus laïcs, moins laïcs, etc., sont allés en ordre totalement dispersé, dans une sorte d'euphorie, dans une sorte de la liberté, le droit d'aller voter librement, et on a eu le résultat qu'on a eu. Mais il faut quand même souligner que... sur les 50% seulement des électeurs en Tunisie se sont rendus aux urnes. Les autres, pour toutes sortes de raisons, et aussi parce que c'était très difficile de comprendre entre toute cette multiplicité de listes pour qui voter. Donc, ce qui a fait que sur les 50%, le parti Ennahda, eh bien, il a remporté 40% des votes. Bon, c'était une victoire extraordinaire, mais en même temps, si on regarde les chiffres, c'est une victoire qui pose des questions quand même. Pas qu'il posait une victoire démocratique. Il n'y a pas eu de grand débat sur le fait que ces élections ont été transparentes et démocratiques. Mais ils n'ont pas fait l'unanimité. Il n'y a pas eu un vote massif pour le parti Ennahda. Et donc, et je rappelle aussi, parce que maintenant j'en viens aussi au sujet qui nous occupe, que tous les partis politiques, quand ils ont préparé cette élection, se sont mis d'accord sur le fait qu'ils entérinaient la parité sur les listes, la parité totale, absolue sur les listes, c'est-à-dire ce que nous appelons en Belgique la tirette, un homme, une femme. Et avec une sanction qui faisait que les partis qui ne respectaient pas la parité, eh bien, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir se présenter. Donc c'était une sanction très, très radicale. Je vous rappelle qu'en France, par exemple, les partis politiques, eh bien, ils payent pour ne pas devoir appliquer cette parité. Et que chez nous, en Belgique, eh bien, c'est depuis l'année 2000 constitutionnellement, la parité a été mise en place et nos assemblées ont changé de manière drastique. la présidente de cette assemblée, la présidente de l'autre assemblée, les femmes qui siègent dans les différentes assemblées, dans les gouvernements, c'est un changement, je dirais, presque révolutionnaire quand on regarde un peu plus en arrière. Alors, évidemment, le système électoral qui a été mis en place ou qui a été mis en pratique pour les élections pour l'Assemblée constituante en Tunisie, ben, c'était un système proportionnel au plus haut reste. Ce qui fait que, évidemment, comme les femmes n'étaient généralement pas têtes de liste, eh bien, il y a eu moins de femmes que d'hommes qui ont été élus. Mais de manière un peu, je dirais, très intéressante, paradoxale, comme c'est le parti Ennahda qui a remporté les élections, le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée sont des femmes Ennahda. Et on a vu arriver dans cette Assemblée constituante des élus dont la plus grande partie était élue pour la première fois, et des femmes qui n'avaient jamais rêvé qu'elles seraient un jour députées.
Dont la vice-présidente
de l'Assemblée. Et Salma Bakar pourra nous parler un peu des jeux de relations qui se sont mis en place au sein de cette Assemblée. Alors, donc, on sait tous, et je ne dois pas revenir sur l'histoire, que la législation sur le statut personnel en Tunisie ne remonte pas à Ben Ali, mais elle remonte évidemment à Bourguiba, qui a imposé d'en haut, à l'encontre de tous les autres pays de la région, un statut des femmes le plus avancé du monde arabe, qui était une révolution, en fait, dans le monde arabe. Et ça n'a pu se faire, je pense, que parce que c'était imposé d'en haut. Et toute la question, c'est, un, dans ce système actuel, où, effectivement, comme le disait Julie de Groot, ben, il n'y a pas la Constitution pour le moment, avance-recul est bloqué à cause des événements, le gouvernement est bloqué. Donc on est dans une situation de tension extrême, et je pense que l'assassinat de Belaïd a été une sorte de rappel à l'ordre pour la société tunisienne que tout n'allait pas se passer sans violence et dans le respect du débat et des idées. Et donc, et je dis toujours à mes amis, je dis à tout le monde ici, je pense qu'on ne doit pas rêver que la démocratie, même la démocratie comme les Tunisiens ne la voient pas comme nous la voyons, va s'installer du jour au lendemain. Ça prendra du temps, il y aura des avancées, des reculs. Et je pense que ce que nous pouvons faire, nous, à partir d'ici, la société civile, les femmes, le monde politique européen, et belge en particulier, parce que je me suis rendu compte aussi qu'on a une image beaucoup plus positive en Tunisie, par exemple, que les Français, puisque nous ne sommes pas les anciens colonisateurs, mais nous avons la même culture. Donc, les Tunisiens apprécient beaucoup les relations qu'ils peuvent avoir avec les Belges. Je pense que là, nous avons un rôle tout à fait particulier à jouer, et nous pouvons vraiment contribuer, parce que nous ne sommes pas là en essayant d'imposer nos valeurs et notre système, mais nous essayons de soutenir et d'encourager la société tunisienne dans ce processus difficile où on avance et où on recule. Et donc, je pense, et on en a parlé hier soir aussi avec Salma Bakar, donc il y a des choses, nous devons répondre aussi aux appels des politiques et de la société tunisienne qui savent, eux, bien mieux que nous, là où sont les dangers, là où sont les obstacles et ce qu'il faut faire pour essayer d'avancer au mieux. Moi, j'ai tendance à être optimiste. Moi, je pense vraiment que s'il y a un pays du monde arabe où ce processus révolutionnaire aboutira à une démocratie à laquelle les Tunisiens aspirent, moi je pense que c'est bien en Tunisie que ça peut se passer. Parce qu'il y a beaucoup plus de conditions qui sont réunies. C'est un petit pays, un peu la même population que la Belgique, une population, il y a très peu d'analphabétisme. Il y a une classe moyenne, très proche de l'Europe aussi, et avec des liens très, très intenses avec l'Europe. Et je pense que c'est bien en Tunisie que cela peut se passer, et je crois que nous devons toujours et partout revenir avec ce message et dire que c'est les Tunisiens qu'il faut soutenir, mais il faut les soutenir comme eux nous le demandent, et pas comme nous voulons qu'ils fassent leur processus révolutionnaire vers la démocratie. Et donc, moi, je suis personnellement optimiste. Je parlais avec LBJ en venant ici. Et c'est vraiment, c'est vrai que quand on est collé sur l'événement et qu'on n'a pas la possibilité de prendre un peu de recul, eh bien, on a le sentiment parfois qu'on ne voit que les choses difficiles et pénibles. Et quand on a un tout petit peu plus de recul et qu'on regarde aussi plus sur la durée, je pense qu'on peut être vraiment optimiste. Alors, encore un mot sur les femmes avant de céder la parole à mes amis. Je pense qu'en Tunisie, aussi dans le reste du monde arabe, regardez ce qui se passe en Égypte avec les femmes qui manifestent contre le harcèlement violent dans les rues. Eh bien, moi, je pense que les femmes sont à la pointe du combat pour faire avancer ce processus. Je veux rappeler simplement que quand Ennahda a essayé de modifier l'article 1 de la Constitution en y installant le rôle de la charia, eh bien, il y a eu une levée de boucliers, des milliers de manifestants dans les rues, et Ennahda a dû faire marche arrière. Donc, à chaque fois, quand on a parlé, par exemple, ils ont voulu inscrire dans la Constitution le rôle complémentaire de la femme, eh bien, immédiatement, en réaction immédiate, les Tunisiens et les Tunisiennes à leur tête sont descendus dans les rues. Donc moi je pense que nous devons être à l'écoute, et c'est ce que nous faisons, puisque à la fois nos représentants et aussi la société civile est de plus en plus sensibilisée à la situation en Tunisie. Nous devons être à l'écoute et nous devons essayer de soutenir la société tunisienne et les femmes en particulier qui ont tous les droits d'abord à réaliser leur démocratie et nous devons faire en sorte que toute l'aide leur soit apportée pour pouvoir aboutir à quelque chose qui est, comme le disait Julie, la démocratie chez nous, c'est pas un processus, c'est pas quelque chose qui est achevé. On a beaucoup de questions à notre époque maintenant, plus que jamais, sur où en sommes-nous, quel type de démocratie, où allons-nous aller, où va le monde. Et donc, je pense que nous pouvons aussi partager ces interrogations et modestement dire nous avons atteint un respect de toute une série de règles, mais le chemin ne s'arrête jamais. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée des femmes.
Merci, Simone. Je voulais m'adresser aux jeunes qui sont là, parce que Simone Suskind s'est elle-même présentée en disant « je suis activiste ». Et être activiste, c'est penser qu'il est possible d'être acteur de changement. Voilà, Simone Suskind pense qu'elle peut être acteur de changement, comme les femmes qui vont la suivre. Et vous allez dire, moi aussi, je pense que je suis acteur de changement. Évidemment, on pense tous qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Mais la vraie question, et c'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui par rapport à la Tunisie, c'est de se dire, est-ce que je peux être acteur de changement dans un monde où je ne connais pas la fin de l'histoire ? Parce que c'est ça, la chose. Quand vous regardez des films, etc., souvent, on connaît la fin de l'histoire. On se dit, moi, je sais comment ça va se terminer. Mais est-ce que, à votre âge, je ne sais pas quel âge vous avez, mais voilà, est-ce qu'à votre âge, si vous aviez, vous savez, la chanson de Jean-Jacques Goldman, si j'avais 17 ans à Leidenstadt, si vous aviez 17 ans Place Tahrir, si vous aviez 17 ans, 18 ans, je ne sais pas, vous devez avoir dans ces eaux-là, Avenue Bourguiba, est-ce que vous descendez ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous descendez ? Et est-ce que vous marchez ? Et c'est ça vraiment la question. Quand on être acteur de changement, être activiste, c'est parce que je réagissais à ce que tu disais, c'est aussi penser qu'on descend, Place Tahrir, Avenue Bourguiba, plus difficilement dans d'autres endroits, quand on ne connaît pas la fin de l'histoire. Et ici, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Je voulais réagir à ce que tu disais sur le mot activiste. Alors, une autre activiste, Salma Bakar, qui est connue pour ses œuvres cinématographiques, aussi de séries télévisées, qui est la première productrice tunisienne, mais qui aujourd'hui, dans cette assemblée, c'est ça que je veux dire, dans cette assemblée parlementaire, est élu membre de l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, c'est parce qu'en Tunisie, on écrit la Constitution. On est en train d'écrire le texte fondamental. Elle est membre de l'Assemblée, ou on espère en tout cas, de l'Assemblée constituante et élue en tant que représentante du pôle démocratique moderniste. El Massar, tout à fait. Salma Bakar, à vous la parole.
Merci Julie, merci Simone, vraiment je vous remercie beaucoup pour le regard et l'écoute que vous portez à mon pays et pour la justesse de cette analyse. Simone, je n'aurais pas dit mieux sur certains sujets que tu as abordés, à tel point que tu m'as bouffé une partie de mon intervention. Voilà, donc je m'appelle Salma Bakar et je suis élue du peuple depuis une année et demie à l'Assemblée constituante. Et dans une vie antérieure qui me semble aujourd'hui très 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 lointaine, je fus réalisatrice et productrice de cinéma. Et je sais que certains, et on m'a souvent posé la question, qu'est-ce qui t'a amené vers la politique ? En fait, c'est vraiment par le plus pur des hasards, quand après la révolution tunisienne a démarré la révolution libyenne, et que dans le sud tunisien, des milliers de réfugiés africains du Bangladesh et de toute autre communauté sont arrivés en Tunisie, et que ce bon peuple tunisien qui était même pas à un mois de sa propre révolution, complètement démuni, a quand même trouvé la générosité d'aller par centaines, par milliers pour soutenir ces réfugiés. Et comme toute bonne Tunisienne que j'étais et toute bonne artiste, avec d'autres artistes, je suis descendue vers le sud pour apporter quelques nourritures et couvertures. Et le chef de camp militaire, qui était débordé par tous les dons qui arrivaient de partout de la Tunisie, nous a suggéré de nous occuper plutôt du moral et de la psychologie et de soutenir psychologiquement ces réfugiés. Et c'est de là qu'est né un programme culturel que j'ai essayé de mettre sur pied avec les jeunes magnifiques de la ville frontalière, Ben Guerden, qui se sont investis avec moi pour créer ce que nous avons appelé la tente culturelle. Nous avons installé un podium avec quelques moyens de bord de sonorisation, un écran géant, et on est parti pour que les réfugiés puissent se distraire et s'exprimer entre eux et même faire des échanges culturels entre eux. Et ce programme n'était pas du goût ni des fameux veilleurs de la, et protecteurs de la révolution, les comités de Himayat al-Thawra, ni des quelques embryons de salafistes qu'on commençait à découvrir petit à petit et qui sont venus me menacer par les propos physiquement en me demandant de rentrer à Tunis, qu'est-ce que je faisais là, parce que estimaient que les réfugiés n'avaient besoin que de manger et de prier. Je rentre à Tunis et je me mets en guerre médiatique contre ces gens-là en organisant avec mes amis cinéastes et artistes conférences de presse, tables rondes sur les chaînes de télévision, etc. Et accompagnée par des artistes, des journalistes et des militants de la gauche, je retourne à Ben Guerden et dans le camp de Choucha et je poursuit ce programme malgré les menaces et malgré les tentatives d'arrêt. Et c'est là où j'ai réalisé pour la première fois que mon pays était en danger et que je ne pouvais plus continuer à mener cette lutte solitaire de cinéaste à travers uniquement les films que j'avais l'habitude de faire. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager dans un parti politique qui est l'ex-parti communiste et qui s'appelait Etajdid et qui aujourd'hui s'appelle El Massar, parce qu'en fait, le pôle démocratique, c'était une alliance pour les élections de 4 partis et 5 initiatives citoyennes, pour dire déjà à quel point la société civile était déjà prête à lutter pour ce pays au lendemain même de la révolution. Maintenant, j'aimerais remonter un peu plus loin dans l'histoire et vous parler de mon premier film que j'ai réalisé en 1975 à l'occasion de l'année internationale de la femme. C'était un docu-fiction d'une heure et demie et qui a essayé d'aborder toute la problématique femme de cette époque. ce qui lui a réservé une censure qui a duré plus d'une trentaine d'années, puisque je n'ai pu le sortir officiellement qu'en 2006. Pourquoi cette censure? Ce n'était pas tant parce que j'avais essayé de révéler des falsifications de l'histoire de la Tunisie, en particulier celle qui voulait que l'ex-première dame, femme de Bourguiba, ait pu participer d'une manière active à la lutte nationale, alors que ce n'était pas vrai, ce qui avait rejeté aux oubliettes d'autres vrais militants, mais c'était surtout le problème.